Alors, ça nous amène à la chronique des apatrides anonymes avec Marie-Ève.
Bonjour, salut, Marie-Ève. Christian.
Alors, je n'énumérerai pas tes sujets, je te laisserai faire quand même.
C'est bon. Ben, vous allez voir, on va couvrir, on va partir de l'international pour revenir au national puis aller au local, très, très local, dans le quartier ici, en fait. Je vous amène d'abord en France pour un peu faire le point sur l'état d'urgence qui a été décrété là par le gouvernement français à la suite des attentats de novembre dernier. Bon, on sait que l'état d'urgence a été décrété pour une période déterminée, c'était pour une période de 3 mois au départ, je pense. Ben là, le Conseil des ministres a validé mercredi dernier, en fait, un projet de loi qui renouvelle pour 3 mois l'état d'urgence, et ce, à partir du mois de février. Comme je vous disais, l'état d'urgence a été décrété depuis le 14 novembre sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire Paris, banlieue de Paris, mais en plus, après ça, dans ce qu'on appelle les DOM-TOM, les départements outre-mer, à partir du 18 novembre. Pire que la prolongation de l'état d'urgence, c'est que ce projet de loi-là qui a été validé, c'est que le projet de loi, il vient modifier une procédure pénale en fait qui transforme l'exception en règle pour un ensemble très très large d'infractions. C'est-à-dire que c'est comme si l'état d'urgence était devenu maintenant la norme, puisque on a inclus dans des lois autres que la loi qui concerne seulement la loi sur l'état d'urgence, des mesures qui est inclus dans cette loi-là. Entre autres, comme je disais, a été proposé par le ministère de l'Intérieur. Je rentrerai pas dans tous les détails parce que le projet de loi, je l'ai regardé, puis c'est très complexe et très long, mais les principes éléments, c'est que il y aura de nouveaux dispositifs techniques qui vont être entre les mains des juges, à la disposition des juges et des procureurs. Certains de ces dispositifs-là qui étaient jusque-là réservés aux services de renseignement seulement. Par exemple, les perquisitions de nuit vont être désormais permis dans des domiciles. On dit seulement en matière de terrorisme et en cas de risque atteinte à la vie, mais on sait que cette définition-là est très large, floue, et on l'applique à n'importe quoi. Et c'est un juge maintenant qui s'occupe de ces mesures-là. On autorise aussi l'inspection visuelle et la fouille des bagages à peu près systématiquement, là, basé sur de simples soupçons. Entre autres, les personnes dont, puis là, j'insiste sur la phraséologie ou le vocabulaire, les personnes dont le comportement paraîtrait lié à des activités terroristes, bon, si c'est pas du profilage, ça, je sais pas comment nommer ça, pourront être retenues afin d'examiner leur situation pendant une durée maximum de 4 heures. Ça, c'est au retour, mettons, dans le pays, en France, en entrant dans le pays. Les personnes qui se sont rendues ou ont manifesté l'intention de se rendre sur des théâtres d'opérations terroristes pourront faire l'objet d'un contrôle administratif à leur retour. Donc, c'est un prolongement de ce que je viens de dire. Un contrôle administratif pour une période maximum d'un mois pour ce qui concerne les assignations à résidence ou dans un périmètre déterminé, et de 6 mois pour ce qui concerne d'autres mesures que l'assignation à résidence. Par exemple, comme être obligé de déclarer son domicile, restriction des moyens de communication et des déplacements. Maintenant aussi, ce que cette nouvelle loi qui a été validée mercredi dernier vient faire, c'est que le non-respect de ces contraintes-là va constituer un délit pénal, c'est-à-dire un crime. Les contraintes pourront être suspendues ou allégées si la personne concernée accepte de participer à un programme de réinsertion citoyenne. C'est vraiment dit comme ça dans le projet de loi. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Également, bon, on a beaucoup parlé aussi dernièrement de la déchéance de nationalité. Simon, je crois, vous en avez parlé il y a 2 semaines, mais la déchéance de la nationalité, c'est donc c'est une mesure qui est très controversée actuellement en France, qui a pour but de supprimer la double nationalité en fait à des ressortissants étrangers de la France. Donc, il va ça, c'est géré par un article du Code civil, mais la loi qui a été votée mercredi dernier va venir apporter plusieurs changements dans cet article du Code civil qui régit le régime de déchéance de nationalité. Par exemple, actuellement, pour la déchéance de nationalité vient seulement d'une autorité administrative et sur la demande du Conseil d'État. Mais là, maintenant, ça va pouvoir être prononcé seulement par un juge. Donc, la déchéance ne pourra être prononcée que pour des crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ça, c'est tout le temps des termes que j'adore entendre. C'est de la nouvelle langue pour moi, ou des crimes constituant des actes de terrorisme, ainsi que pour les délits de terrorisme ou d'atteinte aux mêmes intérêts, mais seulement s'ils sont punis au moins 10 ans d'emprisonnement. Bon, tout ça pour dire que pour tout ce qui est des peines de 10 ans d'emprisonnement qui sont en lien avec la sécurité nationale, la déchéance de nationalité va pouvoir s'appliquer. Mais c'est que ça... Est-ce que cette nouvelle loi-là vient ajouter, c'est que ça concerne pas juste la déchéance de la nationalité comme telle, mais ça concerne aussi des droits qui sont attachés à la nationalité, par exemple des droits civiques ou civils comme le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit d'exercer une fonction publique ou un emploi réservé aux nationaux. Quelques chiffres. L'état d'urgence a été décrété, on a assisté en France à 3289 perquisitions qui ont entraîné la saisie de 560 armes, dont 42 armes de guerre supposément, mais on dit pas c'est quoi. Ils ont conduit au placement en garde à vue, donc arrestation de 341 personnes et donné lieu à 571 procédures judiciaires. Donc, pour ce qui est des assignations à résidence, c'est à peu près 400 qui ont été prononcées depuis novembre, la mi-novembre. Puis sur ces 400-là, il y en a 300 qui sont toujours en vigueur. Et également, il y a plusieurs mosquées et salles de prière qui ont été fermées depuis. Comme je vous disais, cette nouvelle loi-là va... c'est clair, tu sais, que... on est en train de rendre suspect un peu toute personne finalement qui appartient aux communautés arabo-musulmanes en France. C'est une loi qui est très décriée actuellement, même au sein du gouvernement français, ça fait vraiment pas l'unanimité. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. La loi va être réexaminée au moment de son entrée en vigueur à la fin du mois, le 26 février. Donc on verra qui va arriver avec ça, mais une chose est sûre, les apatrides anonymes, on va vous tenir au courant. Le Canada n'est pas exempt non plus de ces mesures d'exception. Vous le savez, on vous a souvent parlé, les apatrides anonymes, des certificats de sécurité ici. Je voulais vous donner quelques nouvelles de Mohamed Arkat, qui, lui, ça fait 13 ans qu'il a été arrêté en vertu d'un certificat de sécurité. Pendant cette période-là, il a été emprisonné pendant 3 ans et demi et a été soumis pendant plus de 7 ans à différentes conditions d'assignation à résidence et de liberté conditionnelle qui sont vraiment parmi les plus dures dans l'histoire du Canada. Rappelons que M. Arkat n'a jamais été accusé formellement de quoi que ce soit, n'a jamais pu avoir accès aux preuves qui sont retenues contre lui et n'a jamais eu droit à un procès en bonne et due forme, là, c'est-à-dire un procès juste et équitable. Donc, M. Arkat, en août dernier, donc peu de temps après le déclenchement des élections fédérales, il a reçu une lettre l'avisant que le gouvernement entamait contre lui officiellement là, les procédures de déportation vers l'Algérie, qui est son pays natal, où il risque de subir la torture, l'emprisonnement incommunicado, c'est-à-dire sans contact avec l'extérieur, ou même la mort. Monsieur Arcat était arrivé d'ailleurs au Canada comme réfugié pour ces mêmes raisons-là, parce que il était très critique du gouvernement algérien. Au moment où Monsieur Arcat a reçu cette lettre, ça faisait 15 mois qu'il était sans nouvelles totalement du gouvernement concernant son cas, donc il n'avait eu absolument rien eu. Peut-être vous rappeler, là, évidemment, la déportation ne sera pas du jour au lendemain. Si elle finit par se faire, les procédures peuvent être longues parce que le gouvernement doit procéder à deux types de d'évaluation. Une étant si M. Arcat pose toujours une menace sérieuse à la sécurité nationale. Si le gouvernement conclut que c'est le cas, il doit aussi procéder à une évaluation des risques avant renvoi concernant justement les risques de torture. Mais non seulement concernant les risques de torture, mais aussi à savoir si le gouvernement peut vraiment se fier aux assurances diplomatiques de l'Algérie. Évidemment, Amnesty International craint que le gouvernement du Canada se fie à ces assurances-là, que M. Arcat sera pas maltraité, alors qu'on sait que de telles assurances de la part de pays qui sont connus pour la violation des droits de la personne sont pas fiables et constituent en rien une garantie contre la torture, les mauvais traitements ou l'emprisonnement incommunicado. Là, évidemment, les Arcat et ses proches et ses alliés font des pressions auprès du gouvernement Trudeau pour que qu'il cesse les procédures de renvoi et abandonne les procédures contre Arcat. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2006, le frère de Justin Trudeau, Alexandre, avait appuyé M. Arcat en 2006 lors de sa demande de libération conditionnelle. Il avait signé un affidavit et offert une caution. Il a aussi réalisé un documentaire, Prisonnier de la liberté, qui mettait en lumière les injustices des certificats de sécurité. Je fais que je sais pas si Alexandre va pouvoir user de chantage familial pour faire pencher la balance envers M. Arcat pour qu'il puisse rester ici. Comme je dis, ça fait 13 ans qu'il y a des poursuites, que le certificat de sécurité a été retenu contre lui, puis il se passe toujours rien dans son dossier. Donc, voilà. Et finalement, je finirai avec une petite information sur vous amener un peu plus dans le quartier ici, au niveau local. C'est pas à propos d'une initiative nouvelle ici, dans le quartier Milton Park. C'est pas nécessairement une initiative qui touche les questions de l'immigration ou la paranoïa sécuritaire et l'appareil sécuritaire comme tel, mais d'une certaine façon, oui. C'est Solidarité Milton Park, qui est, comme je vous disais, une nouvelle initiative populaire dans le quartier ici, qui, en fait, a vu le jour pour apporter de l'aide aux personnes marginalisées puis en situation d'itinérance du quartier Milton Park. Un de leurs buts, c'est de vraiment promouvoir et faciliter des rencontres dans la communauté, pour qu'il y ait des échanges, pour écouter, pour que les gens apprennent à s'écouter, à apprendre, à dialoguer à propos des causes à la source de la marginalisation, de la pauvreté, puis de l'itinérance. Il y a Solidarité Milton Park organise des ateliers puis des présentations d'éducation populaire, mais aussi des potlucks, des repas communautaires pour que la communauté se rassemble. Aussi, chose que je trouvais intéressante, c'est que Solidarité Milton Park essaie de travailler dans une perspective de décolonisation et de réconciliation. On le sait, dans la communauté Milton Park, il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont issues des Premières Nations. Donc, elles veulent également, Solidarité Milton Park a également pour souhait de créer plus de liens donc avec les personnes des Premières Nations qui fréquentent le quartier. À date, les principales activités, c'est surtout des repas chauds qui servent une fois par semaine, le samedi à 11h, autour de 11h. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes de Solidarité Milton Park, ils attendent pas que les personnes itinérantes viennent à elles pour aller chercher de la bouffe. C'est plutôt l'inverse. Donc, elles se promènent dans le quartier avec de la bouffe chaude, puis de coin de rue en coin de rue, pour vraiment aller rejoindre les personnes qui sont en situation d'itinérance dans leur milieu où ils et elles sont. Par exemple, tu sais, font tout le quadrilatère, là, Sherbrooke, entre Saint-Urbain et Bleury, dans les ruelles entre Jeanne-Mance et de Bleury, Hutchison, autour du métro Place des Arts aussi. Puis jusqu'à maintenant, ils ont offert une douzaine de repas qui ont nourri chaque fois près d'une trentaine de personnes. Une autre des activités se concentre sur la collecte et le don de vêtements. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous impliquer ou tout ça, vous pouvez aller sur le site internet Solidarité Milton Park en un mot sans accent .ca. Puis moi je trouvais que, en tout cas moi j'habite dans le quartier ici, dans une coopérative d'habitation, puis je trouve que des initiatives comme ça, ça manque beaucoup dans le quartier, de rapprochement avec les communautés marginalisées, plutôt que d'avoir une approche de criminalisation, de dénonciation, puis de nettoyage social. Je trouve que vraiment c'est une bonne initiative pour ça.
Et merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette chronique des Apatrides Anonymes.
C'est un plaisir.
Et à la prochaine.
À la prochaine.